Vous écoutez
RMC.
RMC Bourdin Direct.
Jean-Jacques Bourdin.
Professeur Axel Kahn, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques Bourdin.
Généticien, président de la Ligue contre le cancer. Nous allons parler du cancer. N'oublions pas toutes celles et ceux qui souffrent d'un cancer ou qui ont besoin d'être dépistés pour savoir s'ils souffrent réellement d'un cancer. Nous ne les oublierons pas pendant cette demi-heure. Mais Axel Kahn, je voudrais que nous commencions évidemment avec le Covid. Le Premier ministre s'exprimera en fin d'après-midi. Conseil de défense ce matin, tout à l'heure, où tout va se décider. Faut-il desserrer l'étreinte ?
Il est malheureusement sans doute beaucoup trop tôt. En effet, il y a à l'heure actuelle une certaine décélération de l'épidémie, mais c'est normal. Il faut savoir, il faut dire et redire que ce virus, ce méchant virus, le coronavirus, n'a pas de petites ailes qui lui permet comme cela d'aller d'une personne à une autre. On se contamine de personne à personne, uniquement de personne à personne. Et par conséquent, chaque fois que l'on diminue les interactions physiques, eh bien, on diminue évidemment les contaminations. Si bien que, d'une part, le couvre-feu, d'autre part, le confinement, qui n'est pas extrêmement strict, mais qui est tout de même un confinement, devait diminuer le flux viral, et il l'a fait, puisque le taux de reproduction, le fameux oui. R0, est à 0,93.
Et en dessous de 1.
Mais c'est insuffisant.
Voilà. Bon, je vais revenir, mais les commerces, je voudrais insister sur les commerces, parce que j'entends les commerçants qui souffrent, les commerçants qui voient Noël approcher, qui ne peuvent pas ouvrir, qui ne peuvent pas vendre, qui ne peuvent pas exercer leur métier et qui sont, pour certains, au bord de la faillite. Est-ce que les commerces qui sont fermés devraient le rester, Axel Kahn ?
Ce qu'il faut, c'est tout mettre en œuvre pour que la circulation virale ait suffisamment baissé.
Oui.
Pour pouvoir effectivement libérer au tout début décembre, de telle sorte que le mois de décembre, qui représente l'essentiel de la vente des commerces, soit libéré. Oui. À vrai dire, je vais vous faire une confidence, mais vous le savez bien, le gouvernement a commencé trop tard à serrer les vis. C'est-à-dire que si on voulait, et je ne sais pas si c'est à vous ou à d'autres, mais je l'avais déjà prononcé et présenté comme cela. Si l'on voulait libérer la période de Noël, alors il fallait faire en sorte de diminuer la circulation virale avant. Bon, là c'est juste, mais on peut peut-être y arriver, et évidemment, malheureusement, il n'est
mais
pas temps de desserrer.
Mais même avec des conditions sanitaires très strictes, même avec des restrictions sanitaires, on ne pourrait pas ouvrir. Je ne sais pas, moi, en changeant les horaires d'ouverture, je ne sais pas, en demandant aux clients de s'inscrire sur des listes, en entrant à condition d'avoir chargé l'application Covid.
Oh, peut-être pourrait-on, mais voyez, le gros problème, c'est de savoir qu'est-ce qui est la meilleure sécurité.
Oui.
La meilleure sécurité, quand on regarde les pays également, c'est ce qui apparaît.
Oui.
La meilleure sécurité, c'est d'essayer de faire baisser vraiment la circulation virale et après tenir réellement à distance le virus. On le peut par les méthodes dont on dispose aujourd'hui. Si on laisse le virus circuler à un haut niveau, c'est mauvais pour l'économie, c'est mauvais pour les commerçants. On va refermer régulièrement. Et donc, si on veut véritablement, il ne faut pas refermer le coup que l'on a fait au printemps. C'est-à-dire, on a fait un immense effort. Tout allait relativement bien, le taux de circulation virale était très bas, et puis on a relâché les efforts et tout est reparti.
Et tout est reparti. Renforcement des contrôles, donc, vous avez vu que le ministre de l'Intérieur demande un renforcement des contrôles. 60% des Français disent transgresser les règles. Ça ne vous surprend pas, Axel
Kahn ?
Non,
ça ne me surprend pas, parce que c'est une des grandes caractéristiques de mon pays. J'ai écrit ce matin un billet qui s'appelle « J'ai mal à ma France ».
Vous avez mal à la France, à votre France.
Oui, je l'ai parce que la France, ma France à moi, qui suis le médecin, le scientifique, le penseur, l'écrivain, c'est celle tout de même des hommes de la liberté. Les hommes du progrès, les hommes du progressisme, c'est celui des socialistes progressistes, c'est celui de Pasteur, c'est celui de Claude Bernard, c'est celui de Marie Curie, c'est celui du programme extrêmement épris de progrès du CNR. Et aujourd'hui, dans le monde entier, Les réserves par rapport à la vérité scientifique, ou du moins à la plus grande probabilité scientifique. Les réserves au conseil, aux énoncés, des autorités qui viennent de la médecine, etc., sont plus importantes en France que partout ailleurs. Et durant la crise, vous le savez, les Français ne le savent pas, c'est la France où la reprise épidémique a été la plus importante, par million d'habitants, où les morts ont été les plus importants, parce que le niveau de non-respect des conseils a été en France plus important que partout. Et aujourd'hui, les théories complotistes font que si la vaccination arrive, peut-être aura-t-on l'occasion d'en parler, si la vaccination arrive, de tous les pays de l'OCDE, le pays qui est le plus réticent à la vaccination, c'est la France. J'ai mal à cette France-là. Et je me dis, qu'est-ce que j'ai fait, moi, le scientifique, l'homme public, qui essayait de parler
la
parole de la raison.
Pour qu'on ne vous croie pas.
J'ai dû être mauvais.
Pour qu'on ne vous croie plus.
J'ai dû être mauvais. J'ai peut-être manqué quelque chose.
Bien. Dans tous les cas, le débat est là. Bon, il ne s'agit pas, vous ne le fuyez pas ce débat. Le confinement et toutes les interdictions. Beaucoup disent, mais l'État sacrifie nos libertés, Axel Kahn. L'État sacrifie nos libertés ?
Ben, j'ai entendu cela, mais vous savez, ce sont des gens qui ne se rappellent pas ce que c'est que la liberté. L'article 5, je crois, je me trompe peut-être, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen définit la liberté. La liberté est le droit d'être libre de faire ce que l'on désire à partir du moment où cela ne nuit pas à la liberté d'autrui. Or, moi, figurez-vous, je puis avoir la liberté de ne pas vouloir être infecté, de ne pas vouloir mourir d'une infection. Et donc, les restrictions pour raisons sanitaires, aux libertés individuelles, sont extraordinairement anciennes. Et vous savez, c'est très curieux, cette conception de la liberté comme uniquement la liberté individuelle est, on va dire, une conséquence de l'individualisme libéral poussé à son extrême. L'anarcho-capitalisme américain en est un très bel exemple.
Bien. Oui, mais Axel Kahn, quelles sont les générations ? Il y a des générations aujourd'hui qui sont sacrifiées sur le terrain social, sur le terrain économique, même psychologique, les jeunes, les plus jeunes. Axel Kahn, les plus anciens, pour protéger les plus fragiles, les plus vulnérables. Le débat, là aussi, est ouvert. Je lisais la tribune du philosophe Robert Redeker. Je ne sais pas si vous l'avez
lu.
Il dit, les parents se sont toujours sacrifiés pour leurs enfants. Toujours sacrifiés pour leurs enfants. Et voilà qu'aujourd'hui, ce sont les générations actives qui sont sacrifiées.
Mais vous voyez, j'aime bien Robert Redeker, mais là, il se trompe. Il se trompe, et on sait qu'il se trompe, parce que les faits parlent, répondent. Il y a un pays qui suit ce que aurait préconisé Robert Redeker, c'est la Suède. La Suède a dit, il ne faut pas sacrifier les jeunes générations, il faut que l'activité continue, et puis quand vraiment la mortalité a augmenté chez les vieux, on les a mis sous cloche. Le résultat est qu'il y a 5 à 10 fois plus de morts par million d'habitants en Suède que dans tous les pays avoisinant, que les morts se comptent en masse dans les EHPAD et les équivalents, et que, cerise sur le gâteau, évidemment, l'immunité collective n'est absolument pas atteinte, et l'économie en Suède est plus touchée que dans les pays limitrophes. S'il y a un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, et pourquoi ? Parce que c'est pas possible de laisser vaquer à leurs occupations la jeunesse, comme on dit, en mettant simplement les sujets fragiles sous cloche.
Mais est-ce qu'on ne pourrait pas organiser, je ne sais pas moi, un confinement plus strict pour les plus âgés, ou pour les plus fragiles, pour les plus vulnérables ? Axel Kahn.
Ça ne marche pas.
Alors, vous y êtes opposé, vous êtes contre.
Mais je suis contre. Il y a deux éléments, vous voulez. Il y a un élément éthique, il y a un élément également constitutionnel, mais je vais commencer par l'élément médical.
Oui.
Comme je vous l'ai dit, ça a déjà été essayé. Et puis, écoutez, Jean-Jacques Bourdin. Lorsque, au printemps, au mois de mars, l'épidémie a commencé à augmenter, les personnes âgées dans les EHPAD étaient totalement confinées. Elles sont tombées comme des mouches. Tout simplement parce que ce n'est pas une île déserte. Le confinement des sujets fragiles, ils ne sont pas dans une île déserte. Ils finissent toujours par être contaminés. Si on veut protéger les personnes, il faut protéger les personnes les moins fragiles et les plus fragiles. Il n'y a pas d'autre possibilité de le faire.
Même si en réanimation, 90% des patients présentent des fragilités particulières.
Oui, c'est
notamment
vrai.
L'âge, évidemment.
Oui, c'est vrai ça. Mais
c'est vrai,
ça ne change strictement rien à ce que je vous dis. C'est-à-dire que dans les endroits où on a mis...
Est-ce qu'on ne veut pas aujourd'hui préserver à tout prix la vie des plus âgés ?
La réponse est non. D'abord, non. C'est eux qui sont les morts le plus. Mais ce que l'on fait aujourd'hui,
oui.
Ça n'est pas simplement...
Je pose des questions un peu iconoclastes.
Non, mais c'est pas iconoclaste, moi. Vous posez des questions et j'ai plaisir à y répondre, en l'occurrence. Bon. Il n'y a aucun problème.
Alors, professeur.
Donc, sur le plan purement sanitaire, ça ne marche pas.
Oui.
Par ailleurs, si vous voulez, lorsqu'il y a des personnes qui sont fragiles, est-ce que vous imaginez que des personnes fragiles, éventuellement qui n'ont plus que 1 ou 2 ans à vivre, ces personnes qui se protègent le plus. Je rappelle que quand la contamination est repartie de l'avant au mois d'août, ce ne sont pas du tout les personnes fragiles qui se sont contaminées. Parce que elles prennent naturellement des précautions. C'est pas elles qui vont en dancing, c'est pas elles qui se réunissent, etc. Elles vont avec leur canne sous les frondaisons dans le parc où là, elles se contaminent relativement peu. Mais on vit dans la même ville. On vit dans le même monde. Et donc, le virus, il se moque de nos interdictions d'une certaine manière et toute la population est contaminée. Il n'y a aucun moyen de protéger simplement, électivement, durablement, un secteur de la population. Par ailleurs, pour une personne qui a encore peut-être 2 printemps, 2 étés, 2 automnes flamboyants à vivre, le priver d'un de ces automnes est évidemment beaucoup plus cruel encore que pour quiconque. Il y a un problème qui est moral. C'est très bien de vivre. Mais ce qui est important, c'est que la vie, elle est un sens, elle est une saveur, elle est un goût. Par ailleurs, d'un point de vue purement constitutionnel, une assignation à résidence administrative des sujets fragiles est évidemment anticonstitutionnelle.
Bien, professeur Axel Kahn, certains services de réanimation sont surchargés, on le sait, et se pose évidemment la question du choix des patients prioritaires, la priorisation, comme on dit pudiquement dans les hôpitaux, en fait, le tri des patients, les patients Covid... doivent-ils être privilégiés? Je vous dis cela parce que j'ai vu votre cri d'alarme, cette alerte que vous lancez autour des malades du cancer qui parfois voient leurs opérations repoussées ou voient, je ne sais pas moi, des examens repoussés parce qu'il y a trop de patients Covid.
En effet, ça n'est pas au niveau des choix des malades en réanimation, mais c'est la conséquence.
Oui.
Lorsqu'il y a eu la première vague qui nous est tombée dessus, il a fallu s'adapter, et notamment pour ce qui est de la poursuite, de la continuité du traitement des personnes atteintes de cancer. Je m'attendais réellement, j'espérais que, comme la deuxième vague était prévue au moins depuis le mois d'août, pour certains auparavant, mais au moins depuis le mois d'août, je m'attendais à ce que l'on se prépare évidemment à soigner les personnes atteintes des formes graves de Covid, mais à continuer de soigner correctement les personnes atteintes des autres maladies plus graves, plus durables, plus anciennes, plus nombreuses, et pour ce qui me concerne, président de la Ligue contre le cancer, les personnes atteintes de cancer.
Alors,
c'est pas tout à fait le cas. Et quand on supprime, quand il y a 70% de déprogrammation dans les hôpitaux généraux, évidemment, les personnes atteintes de cancer sont parmi les victimes. Simplement un point, que vous vous rendiez compte de la gravité de la situation. On est sûr, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais on est sûr que la diminution de la qualité de la prise en charge des personnes atteintes de cancer durant ces 2 vagues créera des milliers de morts supplémentaires par cancer dans les 5 ans qui viennent qui n'auraient pas dû mourir.
Des milliers de morts supplémentaires par cancer qui n'auraient pas dû mourir. Des personnes qui n'auraient pas dû mourir mourront.
Absolument, cela veut dire exactement cela.
Des personnes qui n'auraient pas dû mourir mourront. Parce que des dizaines de milliers de cancers n'auront pas été détectés.
Et à ça, parce qu'ils n'ont pas été détectés, ils ont été détectés trop tard. Il y a une étude qui vient de paraître chez des collègues, c'est un travail de collègues britanniques, dans le British Medical Journal, qui dit que par mois de retard, suivant les types de cancers, les pertes de chance, l'aggravation du pronostic est de 6 à 13%. Or, il y a des mois et des mois de retard pour certains. Nous avons, nous, à la Ligue, nous avons des témoignages que des opérations qui ont été repoussées durant la première vague viennent d'être repoussées à cause de la deuxième vague. Et donc, nous sommes en train de recueillir ces témoignages. En plus, il y a des inégalités. Il y a des endroits où ça va moins mal.
Oui.
On va dire, dans les centres de lutte anticancéreux, ça va moins mal. Dans certaines cliniques privées, ça va moins mal. Les hôpitaux généraux qui, évidemment, reprogramment 70, 80, 90% en Rhône-Alpes des interventions, évidemment, ils ne peuvent pas épargner un type de maladie. Et dans ces conditions-là, nous sommes incroyablement inquiets. C'est notre raison d'être, le combat pour essayer de préserver, d'éviter, de diminuer Les pertes collatérales des personnes atteintes de cancer est un combat qui est juste, un combat qui est bon. Alors
combien
il faut nous accompagner.
Combien de personnes meurent du cancer en France? Rappelez les chiffres, Axel Kahn.
156 000 personnes par an. Évidemment, c'est beaucoup plus important que la Covid.
Beaucoup plus important que la Covid. Il faut donc assurer les traitements dans les hôpitaux. Bien, Axel Kahn, parlons des vaccins. Vous êtes, je le rappelle, vous êtes généticien. Donc, vous connaissez bien.
Les vaccins, je suis biologiste, je suis médecin,
oui,
voilà.
Biologiste. Bon, la course aux vaccins s'accélère, Axel Kahn. Le futur vaccin développé par les Allemands de BioNTech, associé à Pfizer, a suscité une embellie incroyable. Nous sommes impatients, nous pensons que ce vaccin va arriver. Soyons prudents, non?
Alors, il faut être prudent et exact.
Alors,
voilà. D'abord, ce n'est pas le vaccin qui est le plus en avance. Le vaccin BioNTech, Pfizer ou Moderna ne sera pas disponible sans doute avant la fin de l'année ou le début de l'année prochaine. Alors qu'il y a deux vaccins chinois qui sont Sinovac et Sinopharm qui commencent d'être administrés en masse outre la Chine en deux pays. Le Maroc, Sinopharm et les Émirats Arabes Unis, Sinovac en masse.
Ces deux vaccins fonctionnent.
Ce sont des vaccins old-fashioned, c'est-à-dire ils ont été faits par l'ancienne manière qui consiste à inactiver des virus et à injecter les virus inactivés. Et
c'est ce que fait la Russie aussi, je crois.
La Russie fait des virus recombinants.
Voilà,
la Russie fait la même chose.
Les Chinois, vaccin Sputnik 5.
Voilà, les Chinois font aussi la même chose, ils font tous les Chinois, vous savez, c'est un immense pays. AstraZeneca développe également ce type de vaccin et Johnson & Johnson à ce type de vaccin. Il y a trois types de vaccins qui sont développés aujourd'hui. Oui. Il y a les tout nouveaux vaccins, il n'y a pas d'équivalent, qui sont les vaccins ARN. Ça, c'est Pfizer, BioNTech, Pfizer et Moderna. Il y a les vaccins inactivés, classiques. C'est vraiment les Chinois qui sont le plus en avance. Ils sont déjà sur le marché, pratiquement. Oui. Et puis, il y a les vaccins qui sont des OGM, qui sont des virus recombinants, des adénovirus recombinants. Ça, c'est AstraZeneca. Ce sont des Chinois. C'est Johnson & Johnson. Et c'est Sputnik.
C'est un vaccin à vecteur viral, en quelque sorte. Hein, c'est bien cela.
C'est bien cela.
C'est bien ça. J'ai essayé de me renseigner un petit peu.
Mais vous êtes bon, vous savez.
Mais non, pas du tout. Mais ARN messager. Alors expliquez-nous. ARN messager, ça veut dire quoi? Parce que je ne comprends pas.
Vous allez comprendre, parce que je suis assez clair d'habitude.
Bon, je sais, c'est pour ça que je vous le demande.
Alors, les gènes codent le message génétique. Les gènes, comment ils fonctionnent? Le message génétique, il passe surtout par des constituants principaux de nos cellules que l'on appelle les protéines. Un gène est copié en ARN messager. Cet ARN messager, ensuite, est traduit en protéines. Pour faire des vaccins, il faut qu'il y ait une réaction immunitaire contre les protéines. Pour avoir une réaction immunitaire contre les protéines, soit on prend des protéines, sur les virus inactivés ou des protéines qui sont synthétisées comme ça, soit on prend l'ADN qui ensuite va faire la synthèse, commander la synthèse de protéines. Ici, pour la première fois, on prend la phase intermédiaire. L'ARN messager, qui est au milieu. Et c'est lui que l'on va injecter. Il n'y a pas encore de vaccin.
Après, on l'injecte, on l'enrobe de lipides afin qu'il puisse pénétrer dans les cellules du corps.
Voilà, ce qu'on appelle des liposomes, etc.
Voilà.
Mais c'est de l'ARN comme ça qu'on a synthétisé, naturellement.
Bon, et de là, notre résistance, donc, au coronavirus.
Alors, la résistance, elle viendra simplement d'une réponse immunitaire contre les protéines.
D'une réponse immunitaire.
Contre les protéines.
On crée une réponse immunitaire.
Mais pour savoir si elle va être durable, il faut savoir si c'est à la fois une réponse immunitaire qui...
Combien de temps va durer?
Alors, attendez. À la fois une réponse immunitaire qui stimule la sécrétion des anticorps, mais également ce que l'on appelle l'immunité cellulaire, c'est-à-dire qui arme les globules blancs pour lutter contre les virus. C'est cette double immunité qui est la plus protectrice.
Alors, on ne sait pas combien de temps durera la protection de ce vaccin contre le virus.
Si je vous ai parlé de l'immunité cellulaire, c'était pour répondre à cette question. C'est que si la réponse est à la fois humorale, les anticorps, et cellulaire, alors ça pourrait durer assez longtemps. Autrement, on ne sait pas encore aujourd'hui.
Des effets secondaires, on ne sait pas non plus.
Alors, on ne sait pas, mais... Alors, A priori, personnellement, vous allez m'interroger. Voyons, professeur Axel Kahn, êtes-vous prêt à vous faire vacciner aujourd'hui?
Alors, la réponse est oui.
Quel vaccin je suis prêt à me faire injecter?
Lequel?
Le vaccin chinois sans aucun problème.
C'est vrai?
Ben oui, ce sont des virus inactivés, c'est vraiment une méthode extrêmement éprouvée, il n'y a aucun problème. L'ARN, j'ai peu d'inquiétude non plus. les virus recombinants, il faut regarder de près, quoi. C'est tout. Voilà.
Oui, il faut être prudent, quoi, si j'ai bien compris. Vaccination obligatoire ou pas?
Je crois que ce serait une mauvaise idée dans l'état où est la France. Je vous ai parlé de mon mal à la France. Oui. Dans cet état de non-réceptivité à toutes les recommandations venant des autorités, de contestation de toutes les autorités, qu'elles soient médicales, scientifiques ou bien venant de l'état, je crois que la réaction qui serait provoquée par une obligation de se faire vacciner ne permettrait pas d'atteindre le même niveau de protection qu'une persuasion par des gens persuasifs. Moi, par exemple.
Et puis, dernière question, professeur Axel Kahn. Il faut absolument que ce vaccin soit accessible par tout le monde.
Oui, c'est très important.
Il faut
ça.
Absolument que le monde entier puisse bénéficier d'un vaccin le jour où il sera là, commercialisé.
C'est très important parce qu'il y a naturellement d'énormes enjeux financiers et commerciaux. Reparlons de Pfizer. Pfizer,
c'est un coup de bourse aussi.
Pas uniquement, c'est une vraie nouvelle intéressante. Mais vous savez très bien, le PDG de Pfizer, immédiatement après la montée 30% d'augmentation des cours, a vendu un paquet d'actions et il a fait une plus-value boursière de 5,4 milliards de dollars. Donc c'est également une dimension financière.
Bien. Merci Axel Kahn d'être venu nous voir ce matin. C'était passionnant comme d'habitude. Il est 8h54. Vous êtes sur RMC et BFM TV.